France Culture.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule et dévot, à moitié épaillé, on se mouillait mollement.
Un monde nouveau, ils avaient retourné la scène de la pop et de la chanson avec ce titre et l'album Palais d'Argile. C'était il y a 4 ans, présence magnétique sur scène, texte fébrile. Alors, comment se renouveler après ça? Feu Chatterton est dans les midis pour en parler aujourd'hui. Bonjour Sébastien Wolff, je suis donc en présence d'un peu moins de la moitié de Feu Chatterton. Bienvenue dans les midis de culture.
Bonjour.
Bonjour. Vous qui êtes sensible au monde tel qu'il va, à l'impermanence, à ce qui finit, comment vous vous sentez dans ces périodes de transition comme ça, de fin d'été, de rentrée? Comment vous
Fragile, hein. Fragile.
En même temps, Sébastien, oui, Arthur.
Non, on est guidé par la sortie d'un album. Donc, c'est vrai qu'on est toujours plus à l'aise quand on est occupé, quoi. Sinon, on s'angoisse vite.
Ouais.
De réentendre, en plus de réentendre mon nouveau, qui était, ça me renvoie à il y a 4-5 ans, tu vois, qu'on venait dans cette maison, parler de ce disque qui nous a propulsé, comme vous le disiez. Et c'est vrai que là, ça m'a fait des petits frissons.
Ah oui.
En fait, maintenant de revenir, on va parler d'un autre disque. C'est vraiment le lancement d'une nouvelle ère pour nous. Je pense qu'on va en parler, mais pour nous, bien sûr. Disque, ça a été à la fois un long chemin. On l'a pas appelé Labyrinthe pour rien. Et en même temps, une longue exploration vers des nouveautés musicales, des nouvelles recherches, des nouveaux outils. Et vraiment, là, d'entendre mon nouveau, ça m'a vraiment renvoyé le départ. En fait, c'est un son très particulier. Je me souviens quand on l'a enregistré. C'est vrai que ça, on sent le temps est passé. Le monde aussi s'est assombri. Et je pense que le nouveau disque nous fait rentrer dans cette nouvelle ère. Voilà.
Alors, vous avez tourné cet été, hein. Vous allez repartir dans une grosse tournée dès le début novembre. Et on l'a dit, entre-temps, le 12 septembre sortira donc ce 4e album, Labyrinthe. Comment vous vous sentez là juste avant la naissance, j'ai envie de dire avant la présentation de l'enfant?
Ouais, on a déjà donné son nom de baptême avant de montrer son visage. On a montré quelques bouts du bébé.
Deux petits singles.
Ouais. En fait, on est assez impatient parce que c'est une sorte de campagne quand même de lancer un disque pendant 2 ans. On est dans une cave, on est dans notre monde souterrain. Justement, on passe beaucoup de temps à essayer de tenir à distance l'autour pour trouver ce qu'on a à l'intérieur de vrai. Et là, depuis qu'on a lancé le premier single, c'est une forme de longue campagne. On est d'une certaine manière content qu'elle s'achève pour entrer dans le vrai de la rencontre. Que les gens puissent découvrir l'album dans son entier, parce que nous, on continue de concevoir les chansons dans des albums avec une forme de structure, un monde en soi, et hâte de partager ça avec les gens vraiment et de les retrouver sur scène et d'entrer dans cette simplicité de l'échange aussi.
Sébastien ?
Ce qui est assez particulier pour nous sur cet album, c'est qu'on a fait le choix de tourner avant et on a fait des festivals cet été. Et ça a déjà été un premier contact avec 4 morceaux du disque qui sont importants pour nous et qui sont pas des singles. On a Mille Vagues qui a fini par être un single.
Ouais, bien sûr.
Et là est devenu un single parce qu'on l'a joué sur scène cet été.
D'accord.
Et c'était vraiment un choix de départ c'était un petit rêve qu'on avait depuis longtemps de pouvoir jouer les morceaux avant même de les enregistrer. Là, on n'a pas pu, on avait déjà enregistré. Mais c'est un plaisir parce qu'on est un groupe qui vient beaucoup de la scène. On a grandi par la scène et on a un public qui est très fidèle, qui nous suit, qui fait qu'on joue dans des salles de plus en plus grandes maintenant. Et pour nous, commencer par les concerts, c'est rassurant, quoi. C'est redonner la main aux gens qui nous suivent. Moi, je me souviens très bien du concert qu'on a fait à Clermont-Ferrand, c'était le 29 juin. Et c'était notre grand retour après 2 ans et demi. Et vraiment, moi, j'avais beaucoup. Enfin, j'avais très peur. En fait, on a quand même disparu pendant 2 ans. Peut-être que les gens, ils sont passés à autre chose. Et en rentrant sur scène, j'ai senti qu'ils attendaient comme nous qu'on arrive. Et cette rencontre, elle était très forte. J'espère qu'avec le disque, ça va être le cas le 12 septembre.
Mmh. Labyrinthe, quand même, c'est un nom un petit peu ambivalent, on va dire, le labyrinthe. Arthur Teboul.
Ah, on a toujours aimé l'équivocité, le paradoxe. Dans notre nom, il y a ça. Feu, Chatterton. Mmh. Feu, celui qui est mort. Et point d'exclamation, top départ. Déjà parce qu'on est un groupe, et donc on porte en nous, déjà dans notre ADN, une pluralité de voix. Et pas forcément des voix d'accord. Alors déjà que c'est dur d'être d'accord seul avec soi-même. Donc il y a ça. Et je crois que c'est... Nos chansons, elles portent toujours ça. La multiplicité des interprétations. Parfois même volontairement dans les textes, mais j'ai une manière d'écrire où il peut y avoir 2 sens opposés de lecture d'une même chanson. C'est un travail qui m'amuse. Et aussi qui, je trouve, un défi. Mm-hmm. De laisser ouvert tout en... l'interprétation.
Sans perdre quand même.
Voilà, tout en laissant, gardant une précision dans le propos, sinon ça devient fumeux. Mm-hmm. C'est pas le but non plus. Mais on a ça toujours et les symboles ambivalents nous portent. Labyrinthe, à l'image de la vie, où on peut voir ça comme un certain jour, un labyrinthe, c'est juste un jeu d'enfant. On va s'amuser à trouver l'issue. Où on sait qu'on peut le surplomber, et un labyrinthe vidéo, c'est plus du tout effrayant. Et d'autres fois, c'est vraiment un piège, où on est poursuivi par quoi ? Une ombre, un souvenir, une bête féroce qui nous attire, ou on est en face d'un mur, et on pense que c'est le dernier. On n'a plus la force forcément de contourner l'obstacle. Et d'autres fois, on se rappelle à nouveau que c'est un chemin initiatique. Et c'est vrai que, si vous écoutez nos albums précédents, il y a un terreau mélancolique quand même. Et pourtant, la musique, c'est un remède pour nous. C'est marrant, hein, avec le temps, elle nous guide vers la lumière. Un truc tout bête, mais on aurait pu penser qu'avec le temps, avec le succès, avec notre manière de faire, on se serait entretenu dans une complaisance vis-à-vis de notre mélancolie. Ou même dans un truc qui nous rendrait plus égocentrique ou plus prétentieux. Avec le succès. Et en fait, c'est tout le contraire qui est arrivé. La vie de groupe. Mais la musique, en fait, elle nous attire vers quelque chose qu'on ressent. C'est un peu galvaudé, mais comme le bien, quoi. On a l'impression de devenir meilleur collectivement. C'est bizarre, hein, dit comme ça. Uh-huh. Et donc, c'est ce qui nous fait avoir confiance dans le fait que dans ce labyrinthe, il y a une porte, il y a une issue. Sinon, on n'y irait pas. Ah, labyrinthe... Oui, c'est un piège, mais un labyrinthe, c'est tout. Il y a au moins une porte, il y a au moins une issue.
Et donc cette porte, il faut aller la voir. L'enchaînement est très bien vu. Allons voir, c'est donc le titre d'un des singles. On va écouter un peu ce que ça donne.
Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien.
Voir extrait du nouvel album de Feu Chatterton. Je suis en compagnie d'Arthur Teboul et Sébastien Wolff pour en parler. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça vous fait de le réentendre là maintenant, comme ça, dans les casques, Sébastien?
Ben non, mais on parlait du labyrinthe et c'est vrai que cet album, ça a été beaucoup pour le groupe et je pense que c'est peut-être un sentiment partagé par beaucoup de gens. Hein. Une phase où on avait peu de repères, on se sentait perdu, vraiment. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a appelé l'album comme ça. Allons voir, quand je l'entends là, je me dis, ben en fait, c'était un mantra pour nous. Enfin, on se répétait qu'il fallait y croire et c'est un morceau quand même qui est une porte d'entrée dans le disque. C'est le premier morceau du disque aussi dans le track listing et qui est un peu est plus heureux que le reste et qui est, je pense, des paroles qu'on se répétait à nous-mêmes pendant qu'on créait ce disque. Et je pense que c'est des paroles qu'il faut qu'on se répète un peu tous.
Parce que par rapport à la obscurcie dont vous parliez.
Ouais, par rapport à la société qui est très violente aujourd'hui. Nous, avec Arthur, on a eu des enfants entre les deux albums. Et c'est vrai que on a besoin de se trouver une manière de leur dire que un autre monde est possible. J'aime pas trop cette formule, mais qu'il y a un ailleurs et que peut-être ils trouveront le chemin.
Mmh. Voilà. Un ailleurs et un Arthur. Demain.
Ouais.
Et ouais. On peut pas. Bon, après, c'est vrai qu'on, malgré la mélancolie dont je parlais tout à l'heure, qui est quelque chose qui est assez viscéralement ancré en moi, on a chevillé aussi un optimisme, qui est un optimisme d'action. Quoi. On a toujours l'impression qu'on peut quand même faire quelque chose à petite échelle, autour de soi. C'est ce qui nous excite depuis qu'on est copains au lycée. On se met dans un coin et on refait le monde. Alors, au matin, peu de choses ont changé. Mais la nuit blanche a passé où on a eu l'impression qu'on avait fait bouger une ligne, une petite ligne, un truc qui est... On construisait quelque chose. Parfois, c'est une chanson, parfois, c'est un journal. On a inventé des projets, quoi, faire des projets. Ça, je pense que c'est important.
Est-ce que la musique, parce que vous avez expliqué ça, vous vous êtes rencontrés, on va pas le redire, mais au lycée, vous avez partagé cette période quand même extrêmement exaltante ou angoissante de l'adolescence. Est-ce que la musique a tout remplacé ou est-ce que vous avez encore aussi ces moments... Voilà, de vous parler les uns les autres, de vous, voilà, si, cette intimité,
on
voilà.
On les a beaucoup, hein, quand on est en, d'ailleurs, je me souviens, quand on a travaillé sur le disque, au début de ce disque avec Arthur, on est parti dans les Cévennes. Et honnêtement, on a beaucoup plus parlé que travaillé. Et d'ailleurs, ça m'avait stressé. Je me suis dit, mais on a rien fait là pendant ces 4 jours. Au final, il en est resté beaucoup de choses, notamment les couplets d'Allons voir. Mais, on parle beaucoup. Je pense que ce qui reste quand même depuis le début, dans notre relation, que ça soit avec Arthur et Clément, on était tous les trois au lycée, c'est que les moments où on a l'impression de converser le mieux, c'est quand on fait de la musique ensemble. Mmh. Et la musique a été beaucoup pour nous une salle de répète. C'était comme un bar ou un café où tu retrouves tes potes. Ben on se retrouvait dans une salle de répète et parfois on prenait les instruments, parfois il griffonnait quelque chose sur son cahier et c'est comme ça que le groupe a commencé. Et on est toujours à cet endroit, en ce moment, on est en train de répéter le live. Mmh. Honnêtement, on passe plus de temps à discuter entre nous qu'à répéter. Et c'est stressant parce qu'on a des concerts dans pas longtemps. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On salue les autres qui sont en train de répéter en ce moment.
Enfin, vous avez encore un côté artisanal, en fait, ce que vous êtes en train
plus
de dire.
Plus que tout le monde peut l'imaginer. On est complètement à l'arrache. Aujourd'hui, c'est vrai. Plus que jamais, quoi. C'est marrant parce que c'est vrai que d'extérieur, on peut dire, bah, quand même, oui. Grosse tournée, Bercy, 15 ans de travail, ben. Et nous, on est toujours là, essayer de trouver un endroit, une heure pour répéter dans un Airbnb ou louer un... Enfin, on a toujours l'impression de faire ça, mais...
Mais c'est marrant.
Comme des artisans malhabiles qui scotchent des trucs ensemble. Il n'y a pas vraiment ce truc de maîtrise. On n'a pas du tout de maîtrise. Et puis, la musique, c'est notre amitié. C'est pour ça, pour répondre à la question, c'est un peu particulier. La musique, c'est notre langue d'amitié. C'est notre manière d'être amis. Je pense que j'ai Clément, par exemple, qui est assez pudique. On est vraiment, au début, on était des copains de lycée. On est vraiment devenus amis quand on a commencé à passer des soirs à faire de la musique parce que c'était sa manière c'est notre manière de se dire des choses, en fait.
Mais je pense que quand on fabrique les morceaux au début, eh ben, c'est une sorte de conversation entre Arthur qui va commencer à écrire des mots, commencer à chanter sur une mélodie, moi, Clément ou Antoine, qui commençons à improviser quelque chose. Et c'est comme si on avait cette conversation et que le moment où on se dit « Ah, mais c'est intéressant ce dont on parle, là. Peut-être ça vaut le coup de le conserver », eh ben, ça donne un morceau. Et c'est bizarre, c'est la langue peut-être des musiciens, je sais pas, mais en tout cas, c'est la manière qu'on a de communiquer.
Je vais vous faire écouter trois compères qui, eux, ne formaient pas un groupe, mais qui partageaient le même amour de la chanson et du texte.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenus des adultes?
Aïe, aïe, aïe.
Moi, non.
Ah, moi non plus.
Je réponds pour...
Non, mais lui, sûrement pas. Non, on est tous un peu demeurés.
Demeurés, oui. Et heureusement.
D'ailleurs, pour faire ça, il faut être ou une femme ou un enfant.
Voilà, il a raison.
Écoutez, pour devenir adulte, voilà. Il faut quand même faire son service militaire. Il faut se marier après. Il faut avoir des enfants. Vous me direz qu'il y en a parmi nous.
Bah, ouais, j'ai fait mon service militaire.
Oui. Il faut embrasser une carrière, il faut la suivre, il faut monter en grade, il faut prendre. C'est comme ça qu'on devient adulte. Mais nous autres, nous avons quand même mené une espèce de vie en marge de la vie normale, vous voyez, un peu en dehors de la vie réelle. Oui. On ne peut pas devenir adulte parce qu'on n'a pas de.
Parce que vous n'avez pas voulu finalement vous adapter au système traditionnel.
C'était notre caractère de ne pas s'y adapter, voilà tout. Ouais. On ne l'a pas fait exprès. Il n'y a pas de vantardise quand on dit qu'on est solitaire ou quand on dit qu'on est... Il n'y a aucune vantardise, on est comme ça.
Puis et ça rejoint le poète, l'enfant poète. Quand Brel chante sans rire et puis que c'est... Et que c'est comme ça, et qu'il y croit, quand il dit cette chose merveilleuse, j'allumerai ma guitare, on se croira espagnol, il n'y a qu'un gosse qui peut dire ça.
Bien sûr.
Bon, vous aurez sans doute reconnu Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, qui ont été réunis en 1969 par le magazine Rock and Folk. Alors, on passera outre la comparaison les femmes, les enfants. Bon, est-ce que vous êtes d'accord, en tout cas, par ailleurs, sur cette idée de la part d'enfance nécessaire pour continuer à être artiste? C'est Brassens, ils le disent tous les trois, d'ailleurs, hein, Arthur Tegoul.
Oui, carrément. D'ailleurs, dans le disque, cet album-là en particulier, c'est assez présent, cette figure de l'enfant. Redevient l'enfant, que tout se dénoue, l'enfant qui chantait a défait le lien, c'est des mots qui me reviennent, qui sont dans les chansons. Mais avec le souci, je crois, de garder une part d'enfant sans non plus idéaliser cette enfance-là, c'est-à-dire, c'est un retour à la simplicité, c'est garder l'enchantement et l'émerveillement, tout en étant conscient de ce monde-là. Mm. C'est pas une naïveté, c'est pas une innocence. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est un chemin qu'on aimerait prendre. Parce qu'il y a certains moments où les duretés du monde désenchantent. Et on aimerait être capable de cette grande force d'âme, de caractère. Il y en a qui l'ont, des gens qui ne sont pas forcément des artistes. Moi, c'est là où peut-être s'arrêterait mon accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne pense pas qu'il faille être hors du monde pour ne pas être adulte. Mm. Et je pense, et d'ailleurs, si on reste hors du monde pour ne pas être adulte, on n'a pas relevé le défi. Mm. Le défi, c'est de vivre dans ce monde, les mains dans le cambouis, avec les gens qui font d'autres métiers et qu'on chacun préserve sa part d'enfant. Autour de moi, des gens qui ne sont pas artistes ont une part d'enfant bien plus grande que la mienne. Qui continue à être émerveillé des choses simples, à rester curieux. Nos enfants nous l'enseignent, ce regard-là sur le monde qui continue à être, enfin, qui est normal, c'est le premier regard sur les choses. Et on aimerait leur emprunter ça parfois, sans que ce soit un aveuglement, sans que ce soit un refus du réel.
Ouais, je pense que dans ce disque, on a beaucoup cherché à retrouver cette enfance et comme disait Arthur, je pense à un morceau qui s'appelle Ce qu'on devient, qui est un morceau important du disque parce qu'il nous pousse, nous, le groupe, parce que le groupe a eu besoin de se retrouver dans cette enfance perdue. Mais je pense que nous, on veut retrouver l'enfance tout en étant quand même conscient du monde dans lequel on est. Je pense que, on a besoin de dire des choses sur le monde et peut-être que dirait pas un enfant. D'accepter le temps qu'on a eu pour regarder ce monde et le mettre dans nos chansons. En tout cas, je rejoindrai pas ce qu'ils disent dans la naïveté, comme disait Arthur, de l'enfance. Celle-là, on la met dans nos morceaux, on la met dans notre manière d'être quand on crée. Mais on a aussi un devoir aujourd'hui de dire des choses qu'un enfant ne dirait pas.
Ouais. Par exemple, alors, moi j'ai envie de...
Oui. Parce qu'il y a une phrase de Brel qui me vient et qui résume bien. Parce que les chansonniers sont toujours meilleurs dans leurs chansons que quand ils parlent. Et je dis ça sans offense, c'est vraiment mes maîtres qui ont parlé là. Mais dit, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. C'est super fort. Mm. Parce que là, il y a quand même l'idée de mûrir et de vivre dans ce monde.
Comment vous vivez d'ailleurs le fait de devenir des darons, comme on dit, puisqu'on vous a connu ado quelque part, presque.
Ouais. C'est un sujet du disque. On a volontairement repris un morceau, enfin un texte d'Aragon qui s'appelle « J'arrive où je suis l'étranger »,
voilà,
qui parle de l'acceptation du temps, Je pense que c'est un disque qui parle de l'acceptation des choses comme elles sont, tout en gardant un chemin qui est celui de l'espoir. Mais et cette acceptation du temps qui passe, évidemment, quand on devient daron, quand on devient vieux, et ben c'est un vrai sujet, que ça soit au niveau physique, que on a besoin d'en parler. Et dans le disque, je pense que c'est un sujet central.
Et d'ailleurs, ce track est quand même étonnant puisque vous en faites une espèce de fulgurance techno. Il faut se le permettre quand même sur un texte d'Aragon de faire une chose pareille. Non, mais en écoutant ça, je me suis dit que vous aviez quand même cette... Alors, c'est pas de la chance, puisque vous l'avez créée, cette chance. Mais de pouvoir, voilà, régulièrement avoir des textes exigeants, une langue exigeante, un niveau de langue exigeant, de reprendre un Aragon sur un album aujourd'hui dans l'industrie musicale. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent le faire.
Bah, de plus en plus.
C'est vrai.
C'est vrai que on se faisait la réflexion qu'il y a toute une nouvelle génération d'artistes. Je pense à Zao de Sagazan, à Pomme, à Yoa Iliona. Il y a toute une génération, en fait, souvent d'artistes d'ailleurs féminines, qui font une pop qui est un mélange, qui va être de rock, de musique électronique, et qui est à la fois engagée et qui reprend des bouts de vers, qui n'est pas contre la poésie. Voilà. Et je pense que on est heureux parce qu'on a commencé, enfin, ça fait longtemps qu'on essaie de faire ça, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est plusieurs maintenant. Voilà.
Arthur Teboul?
Ouais, le succès de Sagazan le prouve, je trouve. Ouais. Cette idée de texte exigeant et poétique sur de la techno. Après, on l'a fait par instinct, en fait.
Ouais.
Là où on a eu de la chance, peut-être, et vous le disiez, on a construit cette chance. C'est que depuis le départ, comme on est cinq, on est assez insensible aux sirènes du temps, quoi. Il y a quelque chose en nous qui nous vaccine. Quand il y en a un qui cède à quelque chose qui n'est pas la vérité, une vérité intérieure, ça dure pas longtemps.
Vous arrivez à vous en rendre compte?
Oui, je pense que ce qui nous guide, c'est vraiment cette liberté. Parce que la musique oblige, c'est par honnêteté, à être soi, à être vraiment soi. Mmh. Sinon, à quoi bon le faire? Et parfois, bah, c'est normal, on a envie d'être autre chose que soi, on a envie que les choses soient faciles, mais ça nous tient pas longtemps, ça nous amuse pas longtemps. Donc après, on retourne comme ça, aller fouiller dans nos tripes, et parfois c'est pénible. Mais parce que il y a que ça qui nous anime dans la musique, on lui doit ça, la musique, à cette magie-là, on lui doit ça. Et c'est pour ça que cette liberté, on l'a construite aujourd'hui et depuis un moment. Mais maintenant, avec de plus en plus de monde, on a la chance d'avoir un public qui attend de nous cette liberté. Et ça nous donne confiance. Donc quand on me fait Aragon sur la techno, c'est pas un parti pris, on se dit pas yes, on va faire quelque chose d'original, là il y a une collusion des genres et tout, on va se placer là ou là. Non, juste il y a un texte et il y a un copain qui joue une boucle électro et moi je me mets à chanter à une mélodie française à l'ancienne sur de la techno parce que j'ai l'impression qu'on est plus dans une forme d'incantation, de gospel, presque des trucs de chantre de la nuit, comme ça où on peut passer des messages bibliques, quoi. Et on le fait, en fait on le fait.
Alors il y a un deuxième single que j'aimerais évoquer, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va le faire quand même parce que c'est important, Mille Vagues, qui est un morceau très particulier, qu'on va entendre dans quelques minutes. J'aimerais bien que vous nous racontiez quand même la naissance de ce titre, qui est un titre sur le deuil, sur la disparition. La disparition au départ, c'était celle de Jean-Philippe Allard, le directeur de Polydor, qui est brutalement décédé pendant la création de votre album. Et c'est un morceau vraiment, oui, très particulier, cette ballade.
Oui, en fait, Jean-Philippe avait de multiples casquettes, donc c'était notre manager. Mais dit comme ça, ça peut pas être un truc un peu froid.
C'est quelqu'un d'important pour beaucoup d'artistes.
Oui, pour beaucoup d'artistes et beaucoup de gens dans la musique. C'est quelqu'un d'extrêmement humble, qui avait une soixantaine d'années. Son parcours est impossible à décrire, mais pour le résumer, il a commencé comme vendeur de disques à la Fnac parce que c'était un passionné de jazz et il a fini directeur des éditions. Je pense que ça caractérise Universal. Ça dit beaucoup de choses sur son amour de la musique et son rapport à la profession qui était... Il y a quelque chose d'unique, quelqu'un d'exceptionnel, sans parler de ça, de ses capacités, de ses qualités, humainement. Ouais. Et on l'avait rencontré juste avant le lancement de Palais d'Argile, donc on a vécu une aventure très belle avec lui. C'était un mentor pour nous, un manager, c'est quelqu'un qu'on appelle tous les jours, qui devient un membre de la famille, Et en plus, quand c'était lui, c'était quelque chose de particulier. On commençait en plus, seulement, parce qu'il était très pudique, à devenir des amis, quoi. Mmh. Ah, ça fait chier quand un... Sans quelqu'un de précieux, un ami précieux part soudainement. En plus, on était au cœur du labyrinthe, vraiment, au moment de la création du disque, où on était complètement perdu, déboussolé, et paf, on perd une boussole de plus.
Et donc, ce morceau a été créé rapidement, en fait.
Bah, en fait, on va le voir au funérarium, avec le groupe. On était en studio à ce moment-là, le matin, en studio. On va lui dire un dernier adieu, et on retourne au studio, parce que c'est notre vie, c'est notre métier. Et là, on arrive tous les cinq, comme des cons, quoi. Silencieux, c'est normal. Mais, et une fois de plus, c'est la musique. Nous, il y a Clément qui commence à jouer de la guitare. Et on sent qu'on va. C'est comme ça qu'on va se dire des choses. Si on n'avait pas la musique, on serait allé au café,
ouais.
Comme on va après un enterrement, parler de quelqu'un qui vient de partir, qu'on a aimé, et se rappeler des bons souvenirs. Mais nous, on va studio et la chanson est jaillie comme ça.
Elle est comme ça. On va l'écouter, cette chanson « Mille vagues », deuxième single de l'album « Labyrinthe » qui sort le 12 septembre. Arthur Teboul, Sébastien Wolf, merci beaucoup.
Merci.
Quelques jours à peine, difficile de croire que tu n'es plus là. Un soir de déveine, foutu hasard, enfin, c'est comme ça. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent. Tu ne connais plus la peur. Je relis à peine ton dernier message qui dit à demain. Demain éternel. Ton nouveau rivage, si proche et si loin. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent. Tu ne connais plus la peur. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues nous traversent, mille vagues. On ne connaît pas l'après.
Mille vagues, issues de Labyrinthe, nouvel album de Feu Chatterton. Les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe qui l'a préparé. Aïssa Tundoy, Boris Pinault, Jules Barbier, Lise Ripoche, Zora Vignier, Marceau Vassy et Margot Chaboch. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec Élise Leu à la technique.